franceinter.fr.
À l'heure du soir, à l'heure où vous avez le droit et où vous avez le devoir de mettre en vous le calme, le repos, vous vous apercevrez que la radio a tout ce qu'il faut pour vous parler soldat. Il n'y a pas de visage. Il ne faut pas qu'il y ait de visage. Peut-être par la suite, peut-être allez-vous me poser des questions sur la télévision. Je répondrai tant bien que mal. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'il y ait de visage. Il faut par conséquent que nous soyons dans le monde sonore, que nous soyons dans la logosphère. Il faut que nous écoutions l'hypnotisme auditif de la radio. Il faut que la radio nous mette en sommeil, en demi-sommeil. Vous êtes précisément dans une solitude qui n'est pas constituée. Eh bien, la radio vient vous la constituer. Elle vient vous la constituer autour d'une image importante, une image qui n'est pas à vous, qui est à tout le monde, une image qui est une image humaine, qui est dans tous les psychismes humains. Pas, je répète, pas de pittoresque, pas d'amusement. La rêverie c'est vraiment radiodiffusée. La rêverie qui vient insidieusement, hypocritement, tout ce que vous voulez. Derrière, par conséquent, des sons bien faits.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Évidemment, c'était en 1949. Évidemment, le nom du cher Gaston Bachelard ne dit plus grand-chose et même sans doute quasiment rien aux jeunes oreilles qui nous écoutent ce soir. Évidemment, tout cela peut apparaître à ceux qui ne jurent plus que par Twitter, Facebook et le web comme une histoire de Néandertal. Et pourtant, la radio, cette bonne vieille TSF, reste le médium le plus inventif, le plus souple, le plus proche des gens et, je vous l'affirme, le plus indispensable à la construction d'une pensée autonome, critique, responsable. Là où la télé nous anesthésie les neurones, la radio nous les dope. Et quand les réseaux sociaux nous abreuvent de rumeurs et d'invectives, de cris de haine, de théories complotistes débiles et de commentaires imbéciles, la radio, quand elle ne s'abaisse pas à copier ses nouveaux modes de vie, nous apporte du grain à moudre, des motifs de réflexion, des questions à méditer bien plus intéressantes que des réponses toutes faites, de la vie, de la pensée, des souvenirs, de la mémoire. L'humeur vagabonde s'apprête donc à ranger ses cahiers et ses crayons pour des vacances bien méritées. Comme à chaque fois, depuis 15 saisons que nous officions, cette dernière émission sera hors programmation normale. Ce soir, nous n'aurons que trois mots à vous dire. Vive la radio, mais de service public bien entendu. La radio, vous le savez déjà, c'est la conjonction, l'addition de nombreux savoir-faire, de multiples talents, regards, imaginaires et compétences. Et aujourd'hui est le jour de l'année où je rends hommage à tous ceux et à toutes celles qui me font jour après jour aimer être ici. Valérie Ayestarai d'abord parce qu'elle est devenue l'élément indispensable qui unit et embellit nos différences. C'est elle le pivot de l'équipe et j'admire son infinie patience, sa capacité de travail, son formidable talent pour habiller les lectures et son écoute jamais en défaut. Grâce à elle et à nos deux magiciens du mixage, Rémi Quincé et Basile Bocquer, les éléments que nous diffusons durant l'émission sont de pur plaisir de radio. Tout, évidemment, comme les fabuleuses archives que Claire Tesser va dénicher à l'INA avec l'aide précieuse de Sophie Gillery, Arnaud Planson et Clary Monarque. Cette mémoire-là, celle de la radio publique, nous aide à mieux regarder le présent. Anne-Sophie Dazard est la vigilante tête-chercheuse de l'émission, grâce à qui nos invités ne sont pas ceux qui tournent en boucle partout ailleurs, et son sourire est notre anti-brouillard des jours sans. Mais pour contenir l'amorosité dans les limites du raisonnable, nous pouvons aussi compter sur notre super programmation musicale, taillée sur mesure pour nos petites oreilles délicates par notre si cher Mr. Joub, le programmateur de luxe. Et puis bien sûr, vous connaissez les noms de notre belle équipe de jeunes reporters qui chaque soir ouvrent pour nous les portes capitonnées du studio 611 sur la vraie vie, l'ailleurs, ses bruits, ses odeurs, ses paroles chuchotées ou assénées. toujours intelligents, toujours touchants, ces reportages, sont la preuve que nous sommes vivants. Que soient donc remerciés ici pour leur apport indispensable Rémi Douate, Vinciane Lemonnier, Elsa Denac, Martine Abad, Gladys Mariva, Marianique Bello, Cerise Maréchaux et Léa Minot, qui reprendront tous du service l'année prochaine, bien sûr. Ce soir, à la console, en régie, c'est l'ami Philippe Duclos qui a le droit de vie et de mort sur nos paroles. Et en fait, je dois dire, je me sens assez en sécurité. Comme d'ailleurs avec tous nos amis techniciens qui nous permettent de travailler en confiance, avec bonheur et parfois même de nous sauver du naufrage. Ça va. Alors évidemment, vous n'avez pas oublié que la radio publique était en grève il y a quelques semaines, toute la radio publique. Vous n'avez pas eu droit à beaucoup d'explications claires sur les raisons de ce mouvement, qui fut le plus long de l'histoire de la Maison Ronde. Mais il faut savoir que nous n'avons pas la possibilité de nous servir de l'antenne pour exposer les raisons d'une grève. Mais contrairement à ce qu'un quotidien du soir a osé écrire à ce propos, dans un éditorial courageusement non signé, ce n'était pas par refus du changement, ni pour défendre des privilèges. Sinon, oui, le seul qui nous importe vraiment, pouvoir continuer à faire de la belle radio, celle qui nous fait honneur et qui, je le sais, est celle que vous voulez. Une radio publique n'est pas, comme on nous le fait entendre, un luxe, résidu d'un autre temps où l'on en avait les moyens. C'est un des piliers essentiels de notre communauté nationale, une ouverture sur la culture pour tous, et puis une voix fraternelle qui vous parle au creux de l'oreille. Alors que vive la radio publique, même si les temps changent.
People wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times, they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming, 'cause the loser now will be later to win, for the times, they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Come mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times, they are a-changing. The line it is drawn and the curse it is cast. This slowest one now will later be fast as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are changing.
Et oui, les temps changent, la radio change aussi, et les voix qui y parlent changent. Certaines arrivent, d'autres partent, et lorsqu'un ami s'en va, c'est toujours un vide qu'il laisse derrière lui, même quand il a décidé de le faire. Ce soir, petit retour sur un certain Monsieur X.
Je dis assez souvent que mon émission, mais comme beaucoup d'autres sur cette antenne, n'aurait jamais pu exister sur une radio privée. Seul le service public a pu lui donner naissance et a pu faire qu'elle se prolonge aussi longtemps. Et le deuxième aspect, qui n'est pas le moins important, c'est la liberté totale qui m'a été donnée et qui, je crois, est donnée aux producteurs de cette maison. Liberté totale. Alors bien sûr, on la discipline, cette liberté. On fait en sorte de pas aller trop loin. C'est pas de l'autocensure, c'est plutôt qu'on est raisonnable, on est conscient d'abord de la responsabilité qui pèse sur nos épaules, parce que on a des milliers et des milliers d'auditeurs qui nous écoutent et qui sont attentifs à ce qu'on dit, très attentifs, surtout.
Très, très, très attentif.
Surtout sur la radio de service public. Où,
c'est vrai.
Où assez logiquement, les auditeurs ont l'impression d'être les propriétaires de cette radio.
Ils le sont.
Et ils le sont. Donc, on leur doit beaucoup. Et moi, pour ça, j'ai toujours été très respectueux de leur avis et de l'écoute qui était la leur.
Mais il est vrai qu'on a connu les belles années de la radio aujourd'hui, où on nous parle beaucoup de, et à juste titre, comme tout le monde, les hôpitaux, les écoles, partout, les économies des économies. Mais ça veut dire qu'une émission comme Monsieur X, une émission produite, comme on dit, produite, c'est-à-dire avec de la recherche, avec des studios pour enregistrer, pour mixer, c'est une émission qui coûte plus qu'une libre antenne ouverte aux auditeurs, qui ne coûte rien, ou bien 6 personnes qui bavassent autour d'un micro. Eh bien, ce genre d'émission-là, ça va devenir de plus en plus rare.
J'espère que non, mais effectivement, on peut partager cette crainte. Au fond, c'est pas une émission fantastiquement chère. Elle doit être dans la moyenne, j'imagine. Mais bon, effectivement, il faut oser.
C'est vrai, Monsieur X, c'était une des émissions les plus écoutées, les plus podcastées de la radio. Donc, vous reviendrez l'été prochain, c'est dit, Patrick Penaud, on en est content. Et entre-temps, on vous retrouvera avec vos livres. Les deux derniers viennent de sortir, le grand livre des espions, Patrick Penaud et Monsieur X, chez Fayard. C'est paru en mai. Et puis, Les meilleurs d'entre nous, là, c'est un roman, parce que vous êtes romancier aussi. C'est paru chez Hugo Roman, éditeur.
C'est un polar.
Un polar.
Un polar historique et politique, où quelques personnages comme Staline et Hitler et bien d'autres apparaissent.
Voilà. Patrick, c'était un plaisir de vous avoir pour cette dernière de l'humeur ce soir. Et revenez vite, ne nous laissez pas tomber.
Et bonnes vacances.
Eh bien oui, bonnes vacances à Patrick Penaud. Mais parfois, il est difficile de souhaiter de bonnes vacances à des amis qui quittent la radio sans l'avoir voulu, qui partent sans beaucoup d'explications, simplement. Comme ça se fait. Ils s'en vont, l'été va être douloureux, et pour nous aussi, le manque va se ressentir, surtout quand ce sont des voix familières, des voix qui nous ont ouvert des horizons, qui nous ont fait voyager, qui nous ont fait penser mieux et plus large, et qui peut-être nous ont rendu meilleurs. C'est le cas de Colette Felouz qui s'en va. Ses carnets nomades se refermeront le 4 juillet prochain. Elle recevra Paul Fournel, et on versera tous une petite larme.
Je suis arrivée en 75, j'avais 25 ans, j'étais au séminaire de Barthes et j'étais à la radio pour dire des textes en fait, parce que j'étais aussi un peu comédienne. Et puis c'est en 1980, pendant que j'étais en train d'écrire mon premier roman, je finissais mon premier roman. Et là, soudain, comme j'aimais bien le studio, j'aimais bien le travail avec la voix, et j'ai eu comme un... comme un éblouissement à un moment. J'ai écouté une musique de Derviche Tourneur à France Musique et tout à coup je me suis dit c'est ça que je veux faire. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Mais j'ai eu envie, en fait, en écoutant cette musique qui m'a emplie comme ça, j'ai eu comme une vision de qu'on pouvait, avec le son, avec la musique, avec la voix des autres, faire comme du roman, comme ce que j'étais en train de faire dans mon roman. Et je suis allée simplement avec cette phrase. Je suis venue à France Culture et j'ai dit, voilà, je voudrais faire du roman avec la voix des autres. Et curieusement, on m'a bien écoutée, on m'a pas du tout dit, ça veut rien dire. On m'a dit, travaillez un peu votre sujet et revenez. Et j'ai travaillé pendant un mois avec une émission qui s'appelait Le Cercle. Donc tout ce qui tournait, il y avait la danse, il y avait Dante, il y avait la philosophie, il y avait des clowns, il y avait Edmond Jabès, enfin il y avait beaucoup beaucoup de monde. Et même Raoul Ruiz qui venait d'arriver en France mais qui m'avait fait une petite introduction sur le cercle. Voilà, ce que je voulais à la radio en fait c'était trouver à la fois ma voix mais trouver une forme nouvelle qui fasse que on puisse raconter le monde. C'était ça, mon projet, c'était raconter le monde, raconter la pensée de chacun, l'écouter avec le plus grand soin possible, comme on tisse ses phrases, en fait, avec le visage de l'autre et la voix de l'autre, la pensée de l'autre. Voilà, avoir le plus grand soin de ça comme une grande responsabilité et faire circuler et transmettre et faire partager. Donc après, ça a été le début d'une grande vie de radio avec des thèmes, avec des invités, avec des voyages pour aller très loin, rapporter des choses d'un moment, par exemple, et construire tout ça, fabriquer. C'est-à-dire pas seulement l'interview, mais la radio vue comme un art. Voilà, mais c'était toujours une invention de forme à chaque fois. Et évidemment, au fil des années, s'adapter aussi, le monde qui change, donc la forme qui change. Et j'ai toujours accompagné mon travail d'écrivain en solitaire avec cette beauté du partage, du collectif et de toute la maison aussi, de tout le savoir-faire, des techniciens, des chargés de réalisation, enfin cette grande amitié en fait qui est unique et aussi ce que France Culture donnait aussi, c'est comme liberté, c'est-à-dire que c'était aussi ouvert aux écrivains, aux artistes et c'était une radio... Voilà, je me souviens que Jégu disait « Le public grandit quand on le grandit, quand on le grandit ». Et ça, j'aimais bien cette phrase. Et je ne sais pas si c'est encore... Je ne sais plus tout à fait le même monde.
J'ai aimé Aralim plenikim ekwem Nsang yasang yani Njeyeme aranu plenikim embu Kwemasang yani Njeyeme 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 Yeah.
Autour de la table, dans le sens des aiguilles d'une montre, Vinciane Lhomonier. Bonsoir Vinciane.
Bonsoir Kathleen.
Elsa Denac. Bonsoir, bonsoir Elsa. Gladys Mariva. Bonsoir Gladys.
Bonsoir Kathleen.
Léa Minot.
Bonsoir, bonsoir Léa. Kathleen.
Alors voilà, vous avez fait des petits reportages, plus petits que d'ordinaire pour ce soir. Et on a commencé l'émission, vous avez vu, avec un vieux monsieur assez étonnant qui s'appelle Gaston Bachelard. Mais vous, vous êtes vraiment pas de ce temps-là, évidemment. Même moi, il était beaucoup plus vieux que moi, heureusement. Mais vous êtes de ce temps d'aujourd'hui, du web, du net, des réseaux sociaux. Alors, la radio, c'est quoi? C'est un vieux média pour vous, un vieux médium? Ou bien, pourquoi est-ce que vous faites de la radio? Alors, qui s'y colle la première? Allez, Vinciane, on va faire dans le sens des aiguilles d'une montre.
Bah, je pense parce qu'il y a quand même une part d'intime, en fait, qu'on trouve à la radio, qu'on n'a pas avec l'écran d'Internet. Et moi, c'est ça que j'aime, en fait. C'est-à-dire, il y a une vraie fraternité qui s'établit entre celui qui écoute, celui qui prend le son, et puis celui qui parle à travers le micro. Et il y a aussi cette part, enfin, moi, je trouve que c'est vraiment le média du mi-chemin. C'est-à-dire que moi, quand je suis en reportage, je vais chercher des sons, je vais chercher des éléments du réel. Quand je rencontre des gens, c'est leur voix, c'est les bruits de la porte qu'ils ouvrent, c'est le bruit du moteur de la voiture, donc c'est des éléments du réel que j'apporte, mais c'est une partie que je mets à disposition de l'auditeur en fait. Et l'autre partie du chemin, c'est l'auditeur qui l'a fait. Donc il y a en fait cette idée de je n'impose pas une information qui passe par le biais de l'intime, parce que c'est ce qu'on fait, enfin en tout cas ce que je fais avec les reportages, mais je propose et je laisse en fait à celui qui écoute ben la possibilité de combler en fait le reste. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je fais du reportage, et c'est ça, je pense, qui c'est un des médias qui garde, en fait, cette partie-là, la plus forte, en fait, finalement, la plus ouais, personnelle, intime et intense.
Bon, Elsa Denac.
Moi, déjà, je dirais pas que je suis reporter, je dirais que je suis avant tout auditeur. Et comme un exemple, j'ai un studio de 35 mètres carrés. Dans ce studio, je possède 4 postes de radio. Je l'écoute tout le temps. C'est à la fois ma grand-mère, ma tante, mon amant. Des fois, non, pas Kathleen, vous êtes pas mon amant.
Non.
Mais du coup, la radio, c'est vraiment tout pour moi. Et en faire, ça devient aussi la position d'auditeur quand on fait de la radio.
Gladys.
Moi, ce que j'aime dans la radio, c'est que je me sens libre, je me sens légère et effectivement, je me sens très proche des gens que j'interviewe. Et après, il y a le petit côté magique de la cuisine. Quand on rentre, on compose à partir de ce qu'on a vu sur le terrain, de ce qu'on a entendu. On rajoute des bruits, de la musique, et on crée quelque chose qu'on offre à l'auditeur. Et dans ces cas-là, on pense à nous, quand on était adolescents et qu'on vous écoutait notamment, qu'on a commencé à vous écouter dans notre petite chambre à Poitiers, qu'on voyait pas trop qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire de notre vie et comment partir de là, et que voilà comment la radio a été une fenêtre sur le monde, l'évasion, un peu comme la lecture. Voilà.
Merci Gladys. Léa.
Pour moi, la radio, ça serait plutôt vraiment des histoires, et j'adore écouter des histoires. J'adore écouter les histoires qu'on me raconte à la radio. Et quand j'étais petite, on faisait souvent un trajet pour aller jusqu'à Paris. Et là, j'écoutais notamment Macha Béranger. Je me souviens très bien des histoires d'auditeurs de Macha Béranger. Ça m'a marquée. Et puis après, j'ai voulu entendre moi-même ces histoires, donner la parole aux gens avec un micro, les recomposer, en faire un peu pas des fictions, mais des sortes de micro-récits. Et je crois que c'est ça qui me plaît. C'est vraiment me plonger peut-être au point de m'oublier dans les histoires des autres. Et ça me permet la radio. La radio me le permet.
Eh bien, merci à toutes les quatre. Et je vais rajouter quelque chose que, bien sûr, votre modestie vous a empêché de dire. C'est qu'en plus, vous travaillez superbement bien le son, grâce aussi à la supervision de Valérie Ayestaraï, qui veille sur vous. Mais que ça s'entend et que les reportages de l'humeur vagabonde, j'ai la prétention de le penser, eh ben on les entend pas toujours partout. Alors voilà, après, on va donc juger sur pièce, puisque nous allons écouter vos 4 reportages pour ce soir. Celui d'Elsa Denac va commencer, elle a parlé avec la Z. Ensuite, ce sera celui de Léa Minot, elle a parlé avec un petit Lilou de 11 ans. Ensuite, Vinciane Lhomonier est allée rencontrer Anne Kefelec sur un quai de gare. Et nous terminerons, comme des gourmandes que nous sommes, avec Olivier Rollinger et Gladys Mariva.
J'écoute la radio Marcos sur Pont de Bruxelles. Il y a France Inter toujours à la cuisine et j'ai mon poste sous l'oreiller. Mais si on retournait dans le temps, j'ai toujours eu la radio ouverte sans arrêt.
Je me lève le matin à 5h30 pour ouvrir aux chiens, pour ouvrir à la perruche. Je fais du café frais, je déjeune, je lis le journal. Mais j'ai ouvert la radio, c'est le premier geste que j'ai fait, parce que le Maurice, lui, il la ferme. Tandis que moi, elle est ouverte en haut. Je descends, je la rouvre. Et je la referme pas. Mon premier souvenir de radio, j'avais 4 ans, puisque c'était en 36 et que je suis née en 32. Dans la rue où on habitait à l'époque, il y avait une usine qui était en grève avec des ouvriers plein la rue. Et on était les seuls de la rue à avoir un poste de radio. Et mon père a mis le poste de radio sur le bord de la fenêtre pendant qu'il y avait les informations sur le Front Populaire. Et la première chose que j'ai entendue, c'était l'International. Tous les gens de la rue, tous les ouvriers en grève faisaient cercle devant le poste de radio, devant la fenêtre. Moi, je regardais la radio par devant, par derrière. D'où est-ce que ça pouvait sortir? Qu'est-ce que les gens regardaient? C'était véritablement un objet magique. Et ça a été d'autant plus magique après que mon père voulait pas qu'on y touche, nous, parce que c'était fragile. Il fallait pas le bousculer. Il y avait des lampes qu'il fallait appuyer pour que ça marche, etc. Même à un certain moment, il voulait pas que ma mère ouvre le poste quand il n'était pas là. Et elle le faisait quand même. Et c'est de là que j'ai entendu toutes les chansons que j'ai retenues absolument tout de suite de Jean Sablon, sur les bords de la rivière, que je sais encore maintenant par cœur. Sur les bords de la rivière, on murmure de brise en boumée. C'était encore de la magie qui nous enveloppait tous. Puis on regardait si le papa venait, puis si le papa venait vite, elle fermait le bouton. Alors, il était malin parce qu'il disait, le poste est chaud, il y a quelqu'un qui l'a ouvert. Une fois que j'étais là, j'écoutais la radio. Et j'étais un peu toute seule, là, j'étais enceinte de la Christiane. J'étais dans ma cuisine, la fenêtre ouverte, toute seule, et j'écoutais la radio. Elle était déjà à la même place sur le buffet. Alors, le tour de mes radios, c'était comme si je me mettais dans un cocon et j'écoutais des émissions scientifiques qui étaient super intéressantes.
Ou même des émissions comme la Ménie
Ou même des émissions de cuisine. Enfin, bref, ça m'a accompagnée tout le temps. Je n'avais pas vraiment de culture, je n'ai pu me cultiver qu'avec la radio. Ce que j'ai su, c'était les bouquins et la radio. C'était un isolant, c'était une coque par rapport à l'extérieur. Et c'était véritablement, je me sentais bien là. L'évolution de l'usage de la radio qui m'a d'abord appris, puis après qui m'a protégée, puis qui maintenant m'épanouit, si on peut dire, parce que ça me permet de garder contact même à des voisines. Quand j'ai entendu ça à la radio, bah, ça met un lien. Vive la radio. La télé ne m'intéresse pas. La télé, tu peux pas aller d'une pièce à l'autre, tu ne peux pas faire autre chose en même temps. Et puis, c'est du prédigéré. La télé, les gens font, tu les vois faire. Tandis que moi, la radio, je fais selon l'inspiration de ce que j'entends. Je l'interprète à ma manière. Il en faudrait dans tous les escaliers, dans tous les coins, des machins.
Je sais pas si tout le monde serait d'accord. Pépère, il serait pas d'accord pour qu'il y ait la radio partout.
Ça te gêne la radio le soir?
Comment?
Ça te gêne pas ma radio? T'es sourd, tu peux pas dire que t'entends ma radio.
J'aime bien quand il y a un silence.
Mets la tête sous l'oreiller, puis c'est tout.
T'as choisi quoi, question récurrente?
Bah, c'est le flash. Des petites, le matin, le soir, goûter, il y avait toujours la radio. Enfin, surtout le petit déjeuner. Et puis après, j'ai demandé un poste de radio, j'ai écouté la radio. Et ça arrivait comme ça, au déménagement, on n'avait pas la télé pendant 2 mois. J'étais en permanence bouclée sur la radio, donc c'est nul là. Lilou, j'ai 11 ans et demi. La radio, c'est pas comme le papier, en fait. On la jette pas. On peut pas lire et puis après, c'est fini. Non, la radio, c'est toujours continu. C'est un flux, c'est-à-dire, même la nuit, il y a des infos. Il y a pas le journal, vous pouvez pas continuer de le regarder la nuit. Et surtout, j'adore l'image de la voix, juste de la voix. Comment elle est blonde, elle est petite, etc. Patricia Martin, elle a une voix tellement, tellement jeune, on l'imagine pas du tout comme ça. Jacques Chancel, vraiment, sa voix, c'est pareil que Fabrice Roulet. Malheureusement, je connaissais Jacques Chancel. Mais je n'avais jamais pu écouter Radioscopie parce que sur les archives de l'INA, c'est difficile de le trouver, etc. Et pendant la nuit, Jacques Chancel, du coup, j'avais podcasté Simone Veil, paroles de Salvador Dali, etc. Et du coup, je les écoute maintenant. Et il y a un son, il y a une signature, il y a une intimité, etc. Avec Jacques Chancel, il parle de quelque chose sans avoir l'air d'y toucher, alors qu'il va quand même chercher très très loin. Et vous donnez ces questions à des journalistes, les journalistes paraissent trop impolis. Mais alors lui, avec ses voix, etc., il vous emmène quelque part et surtout, il arrive à créer un instant. La nuit, quand ils disent bonjour nanana, donc c'est pas votre vrai prénom, vous voulez rester anonyme. Ça, c'est génial! À la télé, on a tout. On a les images, la couleur, et surtout, vous pouvez faire vos devoirs en même temps. Je trouve que la radio, ça vous permet de faire plein de choses, puisque du coup, vous n'êtes pas obligé de tenir la radio. C'est quelqu'un qui vous accompagne partout, en fait. Ils peuvent parler à des millions d'auditeurs, vous avez l'impression qu'ils vous parlent à vous. Alors que vous êtes très très loin d'eux. Soleil au nord et orage au sud, des côtes de la Manche et des frontières du nord, les grisailles matinales laisseront la place à un temps ensoleillé. Plus au sud, le temps sera plus mitigé, du massif central jusqu'à la Franche-Comté, aux Alpes et à l'arrière-pays provençal. Le ciel deviendra plutôt chaotique avec des averses.
Les orages Pour moi, la force de la radio, c'est justement cette magie d'une présence invisible. En tant que musicienne, je crois évidemment beaucoup à la force de l'invisible, à la couleur des voix. Et de même, on parle de point de vue. Au fond, on ne dit jamais un point de oui. Et au fond, in utero, le sens qui se développe en premier, c'est l'ouïe. Le premier son que perçoit l'enfant, c'est le cœur de sa mère. Et ensuite, la voix de sa mère, qu'il ne voit pas, justement. Lui, il a un point d'oui sur la vie, il n'a pas un point de vue. Et je trouve personnellement très regrettable que maintenant on mette des caméras dans les studios de radio, parce que on ne dit pas la même chose quand on est vu, quand on est filmé, que si on peut imaginer les interlocuteurs de l'autre côté, et il est plaisant que les interlocuteurs vous imaginent aussi. Moi, combien de fois, entendant des présentateurs, des journalistes ou des personnalités diverses s'exprimer à la radio, on leur prête un physique, on leur prête un visage. Donc l'imaginaire se met en route beaucoup plus. Et c'est vrai que je trouve que ça, c'est une force qu'il ne faudrait pas braver à cause de la sacro-sainte puissance des écrans qui nous envahissent. Et que cette force de la voix à la radio, il faut se rendre compte que c'est un trésor en soi.
Et la radio, c'est un merveilleux média pour la musique. Est-ce que vous avez été saisie parfois par des découvertes musicales ?
Oui. Ah oui, tout à fait. Et j'aime beaucoup, du fait justement de ma vie assez nomade, j'ouvre un peu au hasard, comme ça. Là, le côté surprise, souvent je ne reconnais pas immédiatement. Donc je ne sais pas qui joue, ça je trouve aussi très intéressant, parce qu'on a à ce moment-là un jugement spontané, sans a priori. On ne se dit pas « Ah, c'est un tel, donc ça va être comme ci, comme ça ». Et ça m'est même arrivé, je confesse, de ne pas savoir qui jouait. Puis j'écoute et je me souviens de ma réaction. De dire, ah, c'est assez comme ça que je vois à l'œuvre. Mais ça doit être un jeune pianiste russe, ou je retrouvais certaines façons de conduire le discours musical qui me parlait. Mais je ne me suis absolument pas reconnue. Donc ça, c'est vrai que... Il n'y a que la radio qui puisse permettre ce genre de surprise.
On ne dit jamais un moment de télévision, on dit un moment de radio, un joli moment de radio. Moi, j'ai toujours été très sensible à l'écoute. Parce que finalement, la radio, c'est écouter les autres. Et on n'est jamais perturbé par le paraître. La télévision altère la véracité des propos. En tous les cas, s'il n'altère pas la véracité des propos, elle a tendance à atténuer la portée des propos. On regarde, on observe, comment est-il habillé, comment a-t-il mis sa mèche, tiens, il a pris un coup de vieux, elle a ceci, mais qu'est-ce que c'est que cette mimique ? Enfin, en tous les cas, il y a tout de suite une analyse sur le visuel, ce qui nous fait oublier l'essentiel. Quel propos, l'idée, le contenu.
Ce matin, Amos allait sortir quand elle avait essayé de le retarder sur le pas de la porte. « J'ai mal. » « Où ?» lui avait-il froidement demandé en plissant les yeux. « Dans mon cœur. »
La radio transmet avec la parole. C'est finalement l'objet qui... permet aux uns et aux autres d'écouter des contes. Nous, ici, en Bretagne, à travers des grandes veillées, le conteur, on connaissait son visage. Par contre, ce qu'il nous racontait, l'esprit était concentré sur ce qu'il allait nous dire. Donc c'est une lecture, en fait, c'est un conte que l'on vous lit, que l'on vous raconte. C'est ça la radio pour moi. C'est une nourriture la radio.
Comment ça?
C'est une nourriture parce que on peut avoir faim de radio, quoi. On a faim d'écouter les autres. On apprend à connaître un peu plus les autres à travers la radio. Et puis, lorsqu'on écoute la radio de seul, c'est un peu une introspection aussi. On est seul avec soi-même, on ne peut pas répondre, mais en même temps, on répond. Et lorsqu'on répond, on répond à soi-même.
Pour quelqu'un qui cuisine, c'est quand même aussi beaucoup sur le visuel. Qu'est-ce que ça apporte, la radio?
Là où on parle, c'est comment raconter l'essence, la sensualité d'un plat. Moi, j'ai réalisé dernièrement une poudre qui s'appelle Poudre des Bulgares, qui souhaitait avoir la prétention d'avoir la douceur d'une caresse d'une mère, considérant que c'était le plus beau réveil pour le matin. Une mère, on a 6, 7 ans, une mère nous caresse sur ses cheveux, dit « Réveille-toi, mon petit, c'est l'heure ». Et je voulais créer cette saveur pour juste la mettre dans un yaourt le matin. Eh bien, j'ai eu besoin du son. Donc, je suis allé chercher quelques cristaux d'un gros sucre que l'on trouve à l'île Maurice, qui crisse un peu sous la dent, qui vous réveille presque par une petite musique. Mais le son fait partie intégrante de la cuisine. On peut même penser qu'à travers le son, à travers le langage, on va arriver auprès d'une auberge. Et là, le son d'une arrière-cuisine, le son d'un accueil à table, quelques couverts, deux, trois verres qui vont cliquer, le vin qui va tomber dans le verre. Et puis, là, le premier plat qui va arriver, et puis tout d'un coup, le silence.
Il a raison, Olivier Rollinger. La radio est une nourriture et parfois elle peut être mauvaise, mais quand elle est bonne, ça fait du bien. Vinciane Lemonnier, vous vouliez rajouter que justement, Anne Kefelec se soucie beaucoup en ce moment du sort de la radio de France Culture.
De France Musique. Oui, dont elle croit l'avenir menacé par le projet de la tutelle et de la direction de Radio France. Du coup, elle a lancé une pétition sur Internet qu'on peut signer. Donc, c'est à l'adresse www.change.org.
Eh bien, il me reste à vous remercier toutes les quatre, puisque vous étiez là ce soir présente, que vous nous avez dit des choses formidables et que vous nous avez apporté de jolis reportages. Je vous souhaite un bel été et on se retrouve évidemment toutes à la rentrée.
C'est sûr.
Voilà, et bien sûr, comme c'est la dernière, ceux qui écoutent les dernières depuis un certain temps savent bien qu'il y a des gimmicks qui reviennent. Tante Anna est là ce soir.
J'espère que je ne vous choquerai pas si je vous dis que je ne suis pas du tout sûre d'être une libérale. Je n'ai vraiment aucun credo en la matière. Je ne professe pas de philosophie politique que je pourrais résumer par un terme en isme. Diriez-vous que Montesquieu est un libéral?
Moi, je me sers où je peux.
L'un des grands avantages de notre temps, c'est ce qu'a dit René Char.
Vous savez, René Char, c'est notre héritage. Il n'est précédé par aucun testament. This means we are entirely free.
Cela veut dire que nous sommes entièrement libres d'utiliser où que nous le voulions les expériences et les pensées du passé. Tout ce qui se passe lorsqu'on pense est soumis à un examen critique. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de pensée dangereuse pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse.
Et ne pas réfléchir, c'est plus dangereux.
Je sais, je vous l'ai passé souvent, mais je ne m'en lasse pas, pardonnez-moi. Alors, les quatre filles étaient là ce soir, mais il y en a d'autres qui nous ont apporté leur petit cadeau sans être physiquement présents. On va donc leur donner la parole maintenant. Rémi Douat a interrogé Georges Vigarello, le philosophe, sur l'île aux cygnes. Marie-Annick Bellot a rencontré l'actrice Anne Alvaro. Perrine Malinge nous a laissé un petit message de Sandrine Kiberlin. Et Martine Abad est allée dans la cuisine de l'écrivain Marie Desplechin.
J'ai même un rituel, vous voyez, pour tout vous dire. Quand je me rends à la radio, qui est celle de l'avenue Kennedy, d'abord je me promène dans l'allée du Cygne. J'adore ça, c'est une île qui est sur la Seine, très longue, vous voyez. Et c'est pas un moment de concentration, mais c'est un moment où je commence un petit peu à me préparer à la nécessité de dire avec une diction et avec un contenu qui soit un contenu attentif. L'expérience que j'ai connue il y a quelques années quand j'ai commencé à intervenir comme ça à la radio, c'était, mais alors ça m'a frappé jusqu'à la passion, c'était l'exigence que représente la radio. Alors qu'est-ce que c'est que cette exigence? C'est difficile à dire. Je crois que quand vous êtes à la radio, vous êtes condamné à parler sur un mode qui peut être parfaitement calme, mais qui est celui d'intensité. Autrement dit, on ne peut pas avoir de la négligence, on ne peut pas balbutier, on ne peut pas avoir de la perte, vous voyez. Et ça, c'est absolument passionnant. Et cela, je trouve que dans une certaine mesure, c'est à comparer à l'écriture. Mais c'est plus exigeant que l'écriture. Parce que dans l'écriture, vous avez la rature. Alors que lorsque vous parlez à la radio, la rature n'est pas tellement possible. Et c'est un exercice que je trouve absolument magnifique. Je me rends compte en parlant avec vous. Ce que j'apprécie beaucoup plus aussi, c'est le travail du regard avec le journaliste. Le fait qu'il y ait véritablement un dialogue, le fait qu'il y ait un échange, que l'autre est attentif à ce que vous dites. Et je trouve que l'attention de l'autre enrichit la façon dont vous allez parler. Et je me rappelle parfaitement d'échanges que j'ai eus avec certains journalistes qui ont enrichi ce que j'allais dire. Je n'en ai pas, c'est les larmes aux yeux en vous en parlant.
Alors, je m'appelle Anne Alvaro et j'écoute la radio tout le temps. Je suis radiophage. J'aime beaucoup écouter quand je prépare à manger, au coin du feu, à la campagne, penchée sur un ouvrage de couture. Enfin, les conditions idéales pour savourer un moment, être que dans l'écoute et dans un travail un peu obsessionnel des mains. Comme à l'occasion de ce souvenir qui reste très vif dans ma mémoire il y a quand même quelques années. Je crois que c'était un jour comme une veille de Noël ou veille de Saint-Sylvestre. C'était l'hiver en tout cas. Et c'était pas le soir, ça devait être quelque chose comme l'après-midi, fin d'après-midi. Et je me souviens m'être arrêtée de travailler quand j'ai reconnu la voix d'Alain Cuny qui commençait à parler d'un poète que j'aime infiniment, enfin que j'ai joué, qui s'appelle Kleist. C'est une nouvelle de Walser qui s'appelle Kleist à Thun. Et là, je suis partie avec lui, réfugiée dans une petite ville au bord d'un lac en Suisse. C'était sidérant, à tel point ça m'avait bouleversée. J'étais dans la chaleur de ce moment-là, dans les affres de l'écriture, les tourments de la solitude. Je me souviens proprement de ce moment dégusté. À écouter de toutes mes oreilles la voix de Cuny lisant Walser. Par la suite, je m'étais souvenu que c'était Marguerite Gâteau qui avait enregistré ce texte. Je connais Marguerite, j'avais souvent travaillé avec elle. Et à une occasion de retravailler avec elle, mais quelques années après, hein, parce que c'est pas récent ce souvenir. Je lui avais parlé de Kleist à Thun et de Cuny. Et elle m'avait dit qu'il avait fait une prise. Et puis pour le plaisir ou pour le chipotage, elle lui avait demandé d'en faire une deuxième. Mais c'est la première prise qu'elle avait gardée. Et rétrospectivement, le souvenir de ce premier jet, cet élan, vous savez, quand on se lance dans un texte et qu'on n'est que le passeur des mots entre... voilà, c'est les yeux, la bouche... Et il n'y a que ça. Et puis on est en balancier avec l'auteur, quoi. On écrit avec lui, d'une certaine façon.
J'adore la radio. J'adore les gens qui font de la radio. Je trouve que ça... Il y a eu des choses inventées par des gens à la radio qui étaient, je trouve, extrêmement dingues, parfois plus dingues qu'ailleurs. Et on peut se permettre des libertés, je sais pas, à la radio... des libertés folles, parce qu'on est sans surveillance, il n'y a pas le regard, il n'y a pas tout ça, et le son permet mille choses, des interventions bizarres. Mais j'ai découvert aussi beaucoup de musique et de façon d'aimer la musique à travers la radio aussi, une façon d'avoir de l'humour à la radio qui est différente. C'est Alain Resnais qui aimait beaucoup la radio, qui m'en parlait beaucoup, qui aimait le théâtre à la radio, qui aimait les voix à la radio. Moi, j'aime beaucoup les voix aussi. Je suis très, très sensible aux voix. Je trouve que c'est très amusant, d'ailleurs, d'imaginer une animatrice de radio à travers sa voix. Je trouve qu'on sent tout dans la voix. Et donc, la radio, pour ça, c'est assez extraordinaire. Mais moi, je relie beaucoup ça à mes parents. Et donc, c'est toute une époque comme ça Et moi, j'ai moins ça, le réflexe de la radio aujourd'hui, qu'eux l'avaient à l'époque.
C'est difficile à dire tellement c'est tout le temps. Et c'est depuis toujours. Hein. C'est des souvenirs d'enfance. Hein. C'est ma mère qui écoutait RTL. Hein. C'est Ménie Grégoire. C'est les chansons. C'est la radio qu'on écoute l'après-midi en repassant. Et...
Allô ?
Allô, madame ?
Oui ? Bonjour, madame.
Bonjour, madame. Je suis une jeune fille.
Ah, bonjour, mademoiselle. Quel âge vous avez dit ?
17 ans.
17 ans.
Et je suis fiancée depuis un an avec un jeune homme.
Et alors ?
Mon fiancé voudrait que je lui cède, quoi.
Il y a ma grand-mère, c'est l'annonce de la mort de Kennedy, par exemple, de la fusillade. Tous ces trucs-là qui passent par la radio, cette espèce de bruit qui est à la fois un bruit sentimental et continu, mais qui est troué par du sens sans arrêt. Les chansons dont on va se souvenir, les phrases qu'on aura chopées, voilà. Donc ça remonte à l'enfance. Après, il y a la jeunesse quand on est seul. Moi, je me souviens les études, travailler tard, des thèmes épouvantables de grec, tout en écoutant la radio la nuit. Et la radio, c'est très, très rassurant. Moi, ouais, c'est rassurant, c'est cette espèce de présence vivante, là, qui est sans vous encombrer, qui est là tout le temps, qui change, ça vous parle. Et aujourd'hui, toujours, en fait, aujourd'hui, c'est ma journée, elle est rythmée par la radio. Alors, bien sûr, il y a les podcasts. Ça m'arrive d'aller écouter des podcasts, mais c'est vraiment pour des raisons précises. Et on cherche quelque chose, on attend quelque chose. Ça ressemble plus à un travail. Mais j'aime bien le flux. C'est une compagnie, un accompagnement. Et aussi, je me dis souvent, c'est dingue ce que... Alors, on oublie beaucoup, mais c'est dingue ce que j'apprends, en fait. Passe toute ma journée en formation permanente, alors j'apprends des trucs extrêmement divers. Et en plus, on ne doit pas répondre, quoi. C'est pas une conversation, c'est trop bien.
Là, on est dans votre cuisine, Marie Desplechin. Vous dites que vous travaillez ici. Et là, vous n'avez qu'à tendre le bras vers l'arrière. C'est posé à côté du micro-ondes.
Voilà.
Il y a cette radio.
Oui.
Pleine d'éclaboussures de gras.
Non, dites pas que c'est... Mais non, elle n'est pas pleine d'éclaboussures de gras. Vous êtes gonflée, vous.
Hop. Jean-Luc Moulin, il était une fois.
Ah, c'est culture.
Ah oui, alors Laurentin le matin, si vous voulez.
Donc Laurentin.
Après, il y a Adèle Vendrette. Après, il y a l'émission sur le monde, là, qui est vachement bien. Après, il y a la grande table. Mais de toute façon, je peux vous faire toute la grille de France Culture. Donc, après, il y a les émissions d'Inter, beaucoup. Après, j'écoute énormément RFI aussi. Parce que les informations ne sont pas les mêmes. Il y a du documentaire radio qui est vraiment, vraiment bien sur RFI.
Réalisé par Charpenage de la NSA, l'agence américaine de renseignement.
Mais là, vous êtes sur RFI.
Du Premier ministre.
Et là, vous êtes sur Inter.
C'est une réunion cruciale des ministres des
Finances. Hop, j'arrête. Hop là.
Et si ça s'arrêtait ?
Ben, c'est un peu un truc abstrait. C'est comme, imaginons que j'aille habiter à la campagne, par exemple. Et voilà, à ce moment-là, oui, la vie serait différente. La radio s'arrêterait, ben voilà.
Ça serait pas la même vie.
Ce serait différent, oui.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et garder le meilleur.
J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme, ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps. Et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs. Et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu.
Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
La saison 2014-2015 de l'Humeur Vagabonde ferme donc ce soir ses portes. Mais il me reste à dire bonsoir à Pascal Clark.
Bonsoir Kathleen Evin, vous avez une crève carabinée ?
J'ai plus de voix, mais ça tombe bien puisque j'ai plus à parler pendant quelques temps.
Votre corps est bien fait finalement.
Mais oui, mais il a pris un petit peu d'avance quand même.
C'est ça.
Voilà.
Je vous souhaite un bel été, Catherine.
Ben, attendez Pascal, parce que on se quitte là quand même, mais j'ai un petit cadeau pour vous.
Sans blague.
Oui, il est sonore bien sûr, puisqu'on parle de radio ce soir. Allez, ouvrez vos oreilles.
Ah.
Et de l'autre côté du couloir, Pascal Clark nous attend avec impatience. Bonsoir Pascal.
Salut Kathleen.
Ce petit bonsoir du soir vous éclaire votre journée, j'imagine.
Oui, même celle d'après si vous voulez.
Même celle d'après. Mais quelle est ma chance. Très bonne soirée à vous, Pascal.
Surtout à vous, Kathleen, et puis allez, à demain. Revenez demain, s'il vous plaît. Ciao. Je me disais vraiment que votre générique est mythique.
Ah bah oui, je
sais.
Hein. Ah bah oui. Ah bah oui. Oh, je vous le prêterai un jour.
Ah bah oui, mais je vous le rendrai en bon état.
Ouais.
Bonne soirée à vous,
bonne
Kathleen.
Soirée,
à demain.
Au revoir. Bonsoir Pascal.
Bonsoir Kathleen, mais on se parle à nouveau, c'est magique.
Mais oui, c'est magique la radio, vous savez. Eh bien voilà, c'était mon petit cadeau du soir pour vous, Pascal.
J'adore. Vous pouvez me faire, je sais pas, quelque chose en boucle que je vais emporter.
Mais on vous le copie si vous voulez.
C'est vrai, dans mes oreilles tout l'été.
Ben oui, parce que finalement, nos passages d'antenne, ça va quand même nous manquer. Allez,
ben,
avouez-le.
Bien sûr, évidemment que ça va. Mais on ne peut pas dire, ça n'arrivera plus jamais. C'est ça qui est
on
bien.
On ne peut pas le dire.
On ne peut pas
dire. Donc on ne le dit pas, mais je vous dis bon été à vous, c'est terminé
merci
pour nous.
Merci beaucoup et profitez bien. Et vous serez de retour donc
le 24 août.
Génial. Merci Kathleen Evin.
Belle soirée à vous.
Ciao.